Vous écoutez
RMC.
RMC. 18h-20h.
Rotten Régal spécial UEFA Euro 2020.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h sur RMC. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Rotten Régal pour la dernière de l'année. Et je suis très content de la faire la dernière de l'année avec Jean-Louis Tour, bien sûr. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme. Ça va? Salut tout le monde. Ça va très bien.
Excusez-moi, oui, maître pourquoi? Jean-Louis, oh, je vous vois toute l'émission.
Non, excusez-moi. C'est infernal, ça.
À quand Joe Biden, alors?
C'est à toi de nous le dire. Quand est-ce que tu l'appelles et que tu nous le cales?
Écoute, je vous laisserai faire.
Mais... Très bien. Non, celui qu'on devrait vous voyez, c'est lui, mais on le fait jamais. C'est Jean-Michel Larquet.
Exactement. Jean-Michel Larquet avec nous. Salut Jean-Michel.
Salut les artistes. Salut.
Ça va?
À côté d'un grand journaliste.
Ah, tu l'as.
Il a franchi un palier, qu'est-ce que tu veux.
Mais c'est toi qui l'as formé, hein, Jean-Michel.
Mais quel palier? C'est la même chose de faire Rotten Larquet ou Emmanuel Macron, moi.
J'ai pas eu l'impression hier dans la préparation de l'émission.
T'es pas si pareil dans Rotten Régal que dans Face au président.
Je te crois loin. Il a pas le t-shirt pourri qu'il a aujourd'hui. Hier, il avait une vraie chemise avec une cravate. Alors, il a voulu mettre la cravate.
Il a voulu mettre
la cravate, Jean-Michel, oui. Sauf qu'il n'arrivait pas à fermer le dernier bouton.
J'en étais sûr.
Donc, un peu comme Jeannot, en fait. Il y en a deux dans la rédac. Il y a Jean-Louis et Jeannot.
Non, mais quelle comparaison. Jeannot qu'on embrasse.
Jean-François Marc.
Oui, alors c'est l'accréditation de Jeannot. Effectivement, il nous racontera cette folle histoire tout à l'heure. Je vais reprendre la main parce que là, c'est quand même un Rotten Régal énorme qui est en train de se préparer. Déjà, l'Euro commence ce soir. On va en parler en détail. 21h, Turquie-Italie à Rome. Où se trouve Jeannot Rességuier? On sera sur place donc tout au long de Rotten Régal. On va débattre. Êtes-vous convaincu que les Bleus peuvent éviter l'excès de confiance? Est-ce que Deschamps offre cette garantie-là? 32-16, appelez-nous. On vous donnera les infos donc autour de l'équipe de France aujourd'hui. Et puis à 19h, on retrouve nos spécialistes du foot européen pour savoir qui est le favori derrière l'équipe de France, ou du moins de qui les Bleus doivent avoir peur. Ils seront tous là pour débattre. Avant de partir sur l'Euro, il y a du direct avec le tennis. La première demi-finale entre Zverev et Tsitsipas. Eric Salio et Sarah Bitkovski suivent cette rencontre. Bonsoir à tous les deux.
Alors salut Jean-Louis, bonsoir, c'est Anthony Reich et Florent Serra.
Presque.
Eric Salio, il est encore à la sieste, Jean-Louis.
Ah là, d'accord, très bien.
Il se prépare pour le ménage parce Nadal. qu'il a un certain Nadal. Djokovic a commenté après, donc on en prend soin.
Et Sarah aussi,
du coup.
Très bien, très bien.
Ouais, énorme combat. On vient de passer les 3 heures de jeu ici sur le central. Vraiment une demi-finale exceptionnelle. Et puis surtout un Alexander Zverev qui a complètement inversé la tendance, prenant les 3e et 4e manches. Et Tsitsipas a réagi, Florent. Il mène 1-0 dans cette 5e et décisive manche.
Heureusement, parce qu'en plus, il a sauvé des balles de break dès le début de cette 5e manche. Il essaye de jouer d'un peu moins loin sa ligne de fond de court. Zverev l'a poussé à reculer. Et depuis, il joue beaucoup plus court. Donc, on a vraiment un beau duel entre les deux. Mais il a de la ressource, Stefanos Tsitsipas. Je rappelle qu'il a gagné Monte-Carlo en début de tournée sur terre. Donc, c'est pas fini ce match.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure. Donc, avant donc le coup de tonnerre des droits télé, je vous rappelle que Jérôme et Captain vous offrent vos vacances dans un club Bellambra.
Oui.
Donc pour vous inscrire, vous envoyez vacances au pluriel avec un S au 732-16. Inscrivez-vous, vous serez peut-être tiré au sort.
Heureusement que ça se termine aujourd'hui l'émission.
Pourquoi?
Pour donner, on n'a plus rien là. C'est les derniers lots. Hein.
Exactement. En parlant de l'eau, les droits télé. Alors, dénouement donc. Aujourd'hui, on imaginait un dénouement. Aujourd'hui, ouais, c'est magnifique. En même temps, t'es spécialiste pour ça. Arthur Perrault nous rejoint. Il a suivi le dossier tout au long de la journée. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir.
Salut Arthur. Salut.
Alors, Arthur, on va refaire le fil de la journée.
Oui.
En sachant qu'on est dans une situation d'impasse actuellement, puisque Canal s'est retiré. Ça, c'est l'info vraiment immédiate. Mais refaisons le fil de la journée. Donc, aujourd'hui, il devait y avoir le dénouement pour l'attribution des droits télé de la Ligue 1 pour les trois prochaines saisons.
C'est vrai que tout s'est accéléré ce matin avec la décision d'abord de l'autorité de la concurrence, saisie justement par Canal+ pour abus de position dominante de la part de la Ligue de football professionnel. Cette plainte a finalement été rejetée pour manque d'éléments suffisamment probants. L'arrêt de cette série judiciaire a donc tout changé, permettant dans la foulée un accord. Il y a donc eu un peu plus tôt dans la journée, en début d'après-midi, un comité de pilotage des droits télévisés réuni à la Ligue de football professionnel avec deux offres, celle du binôme Canal-BeIN Sport et celle du trinôme, et là c'est une surprise, Canal, beIN Sports et Amazon qui avaient déjà candidaté au dernier appel d'offres. C'est cette deuxième proposition qui a recueilli l'ensemble des voix du conseil d'administration avec seulement une abstention pour un total de 663 millions d'euros. La chaîne cryptée devait récupérer ces deux affiches tant désirées le samedi 17h et le dimanche 21h. Amazon, lui, prend les 8 autres rencontres. Le géant américain diffusera aussi les 8 autres matchs de Ligue 2. Les deux chocs étant normalement sur beIN Sports, mais donc rebondissement il y a quelques instants, alors que la LFP s'est félicitée de cet accord. Je cite Vincent Labrune via ce communiqué. « Cette décision prise à l'unanimité du conseil d'administration, moins une abstention, permet au football français de bénéficier de l'arrivée d'un nouvel acteur majeur, Amazon. L'arrivée de ce nouvel acteur aux côtés de notre partenaire historique Canal+, est porteuse d'avenir pour le développement du football professionnel français et l'attractivité de nos compétitions. » Mais tu l'as dit, Jean-Louis, il y a quelques instants, communiqué de Canal+, qui annonce se retirer de la Ligue 1. La chaîne cryptée regrette la décision de la LFP de retenir aujourd'hui la proposition d'Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques. Je cite le communiqué, Canal+ ne diffusera donc pas la Ligue 1. C'était un peu le ressenti au moment du conseil d'administration, c'est-à-dire qu'il y avait en effet un peu un sentiment de revanche envers le binôme Canal-beIN Sport qui a longtemps tenu la dragée haute sur ce dossier, laissant une chance à Amazon, ce qui n'est visiblement pas du tout l'avis de Canal+.
Alors en fait, pour Canal, pour expliquer les choses, Canal en fait, ils se sentent vexés de l'arrivée d'Amazon. Eux, ils avaient leur plan en tête avec beIN qu'ils distribuaient. C'est comme s'ils avaient tout en fait.
Mais à aucun moment ils ne pensaient qu'Amazon allait revenir sur ce dossier.
Si, parce que on a fait Maxime Saada donc cette semaine dans l'After, et c'est vrai qu'il a été très clair là-dessus, qu'en effet, il n'a pas caché que lui, il y avait un lot qui l'intéressait, c'est-à-dire les deux meilleures affiches du championnat, et que derrière, ils avaient trouvé un arrangement avec beIN pour que beIN diffuse donc les fameux 8 matchs, les autres 8 matchs, mais qui ne s'interdisait pas, en effet, qu'il y ait un autre
candidat extérieur.
Exactement, qui arrive. Pourquoi pas Amazon, parce qu'il l'avait cité, hein. Il avait cité Amazon aussi. Nous, c'est vrai qu'on était sceptiques, sachant que il n'y avait pas eu de bruit derrière et que là, on est quand même limite dans le temps. Mais il y avait cette éventualité-là. Moi, ce que je comprends pas de Canal aujourd'hui, c'est que le risque, il est là, c'est que la somme qui a annoncé, on parle pas de 800 ou 900 millions, c'est que Canal avait bien dit, et Maxime Saada a bien répété, qu'aujourd'hui, ça valait ce prix-là. Une jauge entre 600 et 700. Voilà. Donc là, on est en plein dans ce truc-là. Oui. Donc, à l'arrivée, je pense.
Pourquoi se retirer alors ?
Pourquoi se retirer, sachant que s'ils n'ont pas mis assez, le risque était en effet que Amazon ou un autre se mette sur l'affaire. Qu'ils ont gagné ces lois, il faut se respecter. Maintenant, encore une fois, Canal fait vexer. Moi, je comprends pas. C'est pas parce que t'es le
partenaire historique
de la Ligue 1 que tu dois avoir des passe-droits. Bien sûr que ça s'est arrangé en termes de communication aujourd'hui avec la Ligue. Il l'a bien dit, Maxime Saada, qui s'y est rapproché de Vincent Labrune, mais qu'aujourd'hui...
Oui, eux, à mon avis, ils estiment qu'ils ont sauvé le foot français après la crise Media Pro, et ils trouvent qu'on ne leur renvoie pas suffisamment l'ascenseur avec cet appel d'offres, avec l'entrée en jeu d'Amazon, avec les 10 meilleures affiches qui auraient été sur Amazon et pas sur Canal. Là, en l'état actuel, avant que Canal ne se retire, PSGOM, c'était sur Amazon, c'était pas sur Canal. Donc, à mon avis, je pense que Canal se sent vexé et ne tire pas assez avantage de la situation.
Non, mais ils ont déjà été vexés de Media Pro, et Maxime Saada nous l'a expliqué. Il avait encore en travers de la gorge ce que le président Aulas avait pu mettre en place. Après, avec le temps, il faut aussi essayer de pardonner. Du moins, ils ont pardonné. La preuve, c'est qu'en effet, ils se sont remis sur la Ligue 1. Alors, si eux estiment qu'en ayant sauvé le football français, ça te donne des passe-droits et l'assurance d'avoir les droits, alors pourquoi sur les prochaines années, pourquoi avoir fait un appel d'offres ? Le risque, il est là. Il n'y a pas eu d'accord de ce côté-là.
Là, c'est pas vraiment un appel d'offres, quand même, hein, pour préciser ce qui s'est passé.
Non, parce qu'on a eu que deux offres de mise sur la table, comme ça. Oui. Et ce matin et hier soir pour Amazon.
Maxime Saada était prêt à partager. Il l'a dit quand même dans l'after, en disant moi je suis pas intéressé par l'intégralité de la Ligue 1. Oui. Il a dit je ne veux pas diviser toute la Ligue 1.
Oui. Prêt à partager à condition que ce soit lui, Maxime Saada, qui décide à qui il donne les parts du gâteau. Voilà. C'est. Je suis.
Il voulait BeIN.
Je suis magnanime, mais c'est moi qui décide. C'est moi qui décide qu'on passe à 18 au lieu de 20. C'est moi qui décide qu'on va prendre les deux meilleurs affiches, c'est moi qui décide où on va mettre les 8 autres affiches. Et j'ai bien écouté ce qu'a dit Maxime Saada tout au long de l'interview. C'est qu'à un moment donné, il était très énervé. Alors, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, parce qu'il a été très énervé il y a des années et des années de l'arrivée de TPS.
Mmh. Ouais, il a été
très énervé. Il a été très énervé il y a des années et des années de l'arrivée de Orange. Mmh. Il a été très énervé des années et des années
l'arrivée
de
l'arrivée de Bein.
De Bein. Il a été très énervé de RMC.
Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez? Déjà, du temps de François Mitterrand, lorsque Canal Plus a été mis en place, ils ont eu mais des avantages incommensurables. Mais la concurrence, ça existe. Et de l'autre côté, ils mettent la Ligue de football professionnel devant les tribunaux pour, comment dirais-je, position de...
Abus de position dominante, non?
Abus de position dominante, exactement.
Mais qu'est-ce qu'ils font, Canal? Ils boudent parce qu'il y a d'autres diffuseurs. Ils boudent... C'est incroyable,
mettons-nous à la place des présidents de club. Mm-hmm. Donc là, ça veut dire que déjà ils attendaient l'argent pour l'année à venir. Ils s'étaient préparés.
Ils ont bien négocié, ils pensaient que ça allait rentrer.
Déjà ils s'attendaient à toucher deux fois moins que ce qui était prévu à l'époque de Mediapro. Mm-hmm. Mais surtout là, ils vont rien toucher avant encore des semaines, avant qu'on arrive à une solution de crise. Mm-hmm. Sachant qu'il y a des choses à faire, des besoins de trésorerie, de mercato, etc.
Solution de crise, dans quel sens, Jean-Louis? Parce que là, les droits, donc Canal se retire, mais Amazon reste. Donc,
Est-ce qu'Amazon est capable de récupérer ce que Canal avait?
Honnêtement, moi, je veux pas parler à leur place.
Oui.
Mais s'ils sont prêts à investir sur les 8 rencontres qui sont pas les 8 plus prestigieuses,
même prix.
On est d'accord. Non, mais c'est.
Redis-nous les prix.
Amazon, pour ces 8 autres rencontres dont tu parles, c'est 250 millions d'euros. Ouais. C'est le marché, on pensait à peu près à 300 millions. Mm. Pour Canal, ces deux affiches, c'est 332 millions d'euros. Mm. C'est qu'il y a quand même une marche. Est-ce que, alors oui, Amazon, visiblement, a apporté les garanties en disant voilà, on veut vraiment s'implanter sur le long terme dans nos championnats, parce qu'il y a aussi la Ligue 2, ils ont aussi les 8 autres rencontres de Ligue 2. Mm. On est prêt à s'implanter dans le long terme, mais est-ce que Amazon est capable de mettre autant d'argent dès le début, comme Mediapro l'a fait? Est-ce que Amazon ne pense pas à ça aussi?
Mmh. Ils sont arrivés sur la pointe des pieds avec Roland Garros, par exemple, hein, où ils ont les matchs le soir, mmh. et puis maintenant les demi-finales et la finale. Sur le football, en effet, peut-être qu'ils voulaient arriver comme ça pour, à terme, à moyen terme, tout rafler sur le prochain appel d'offres dans 3 ou 4 ans. Maintenant, je sais pas. Moi, ce qui me paraît surprenant, encore une fois, c'est le discours de Maxime Saada qui ne correspond pas avec ce qu'il a mis en place aujourd'hui. Là, ils font en effet les vexés en ayant été persuadés qu'ils avaient la ferveur des présidents et du président de la Ligue, et que quoi qu'ils mettent sur la table, de toute façon, dans leur stratégie, c'est eux qui allaient gagner.
Et l'autre truc quand même qu'on peut dire, c'est qu'on a l'impression que les présidents ne retiennent pas forcément la leçon. On peut imaginer, du moins on peut comparer avec ce qui s'est passé avec Mediapro, où ils sont allés peut-être au plus offrant, où ils ont eu envie de prendre leur revanche vis-à-vis de Canal.
C'est sûr.
Donc en tournant le dos aux partenaires historiques, c'est un peu la même chose que Mediapro. Attention quand même. Hein.
Oui, mais après, je pense qu'ils vont pas faire deux fois la même erreur. Vincent Labrune va pas faire deux fois la même erreur. C'est que non, mais en termes d'assurance.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que là, t'as perdu Canal dans l'affaire.
Amazon, ça paraît très solide quand même sur le coup. Alors après, il faut mettre un point d'interrogation parce que, en effet, c'est nouveau. Mais je suis pas sûr. Du moins, ça sera pas les mêmes bêtises que le président.
Évidemment, Amazon Kyo est plus fiable que Mediapro. Ça y ressemble.
C'est certainement pour ça. Et puis encore une fois, ils ont pas mis de côté Canal. Dire Canal avait cet accord avec Bein et a toujours dit, on veut principalement deux affiches. Mmh. Ils avaient les deux affiches. Alors après, en effet, il y a cette fameuse, c'est pas les 10 meilleures affiches, c'est ça?
Non, c'est ça, exactement.
Ouais. Donc peut-être que là, ils sont vexés sur ce point-là, parce que c'est sûr que les PSG Marseille, Marseille PSG, et puis d'autres belles affiches du championnat, si en plus de ça, tu ne les as pas sur Canal à 21h le dimanche soir, là, ça peut poser problème.
Alors, qu'on va faire, Arthur, on te laisse aller passer quelques coups de fil, essayer d'avoir des réactions un peu plus en détail côté Canal, côté Ligue, côté président dans le club, et tu reviens quand tu veux dans Rotten Regal avec plus d'infos. Merci Arthur Perrault.
Merci Arthur, avec des arguments solides. Non,
mais là, il est excellent. Ouais. Moi, excellent. Très clair.
Je pense que ton contrat t'attend dehors. Là. Merci. Je pense que Antoine, là, entre les mains.
Dans un instant, on lance l'Euro. C'est ce soir, 21h, Turquie-Italie. On parle de la journée des Bleus. Deschamps est-il l'arme anti-excès de confiance? Appelez-nous au 32-16 pour débattre. A tout de suite.
RMC 18h-20h Rotten Régal spécial UEFA Euro 2020.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h17 sur RMC, toujours dans Rotten Régal, bien sûr, avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. Voilà, on a fait le premier thème sur la bombe qui est sortie avec Canal+ et donc Amazon, le nouveau diffuseur de la Ligue 1. Une exactement. Partie en tout cas.
Ouais.
Maintenant, on va parler foot un peu.
Exactement, c'est avec Marcel Desailly, champion du monde 98, vainqueur de l'Euro 2000, avec nous dans un
immense
instant pour
Marcel.
Évoquer cet Euro qui débute ce soir, 21h, Turquie-Italie. On fait le point juste avant à Roland-Garros, Zverev, Tsitsipas, le 5e set, Florence Serre, Anthony Reich.
Et 4-1 pour Stefanos Tsitsipas, le meilleur joueur mondial de cette saison en cours. Il a réagi, le grec, après la perte des 3e et 4e manches. Et Alexander Zverev marque un petit peu le pas, Florent.
Oui, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts aussi pour revenir de 2-7-0. Il a remporté le 3e et le 4e en produisant un excellent tennis, comme il avait pu faire aussi contre Kei Nishikori. Et il a eu les occasions de breaker ce qu'on disait tout à l'heure dans le premier jeu de cette 5e manche. Il a eu une occasion, qui ne fait pas une petite faute directe. Et derrière, ça a aussi redonné un petit peu de confiance à Tsitsipas qui bouge toujours aussi bien, on va dire, physiquement, il est toujours aussi affûté et il a fait la différence. Ça va être compliqué pour Zverev, mais l'attitude est là, donc il va essayer de revenir.
On revient pour une éventuelle balle de match, j'allais dire, enfin en tout cas le dénouement de ce 7-4-1, Tsitsipas face à Zverev. L'Euro, ça y est, on y va ce soir, allez. C'est le début de la fête.
L'équipe qui gagne la compétition, c'est celle qui en veut le plus. Mais ils peuvent le faire. En tout cas, c'est l'objectif assigné.
Allez, Michel. Voilà. Oui, Michel.
Oui, Michel. Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini.
La chose la plus importante, c'est que le groupe est toujours soudé. On veut inspirer la jeunesse. On veut qu'ils aient des belles choses à vivre aussi.
Il est dans la surface. Allez, le centre, oui. C'est fini.
La qualité, elle est là. Évidemment, je le sais, vous le savez. La conscience d'avoir beaucoup de force. Et on aura besoin de tout ça pour ce qui nous attend.
Il y a du monde, il y a Trezeguet. Oui, l'équipe de France est championne d'Europe.
RMC, UEFA, Euro 2020.
Coup d'envoi dans 3 heures.
Exactement, coup d'envoi 21h donc de Turquie-Italie. Alors évidemment, comme à chaque grande compétition, RMC vous propose un dispositif exceptionnel. Tous les matchs en intégralité seront sur RMC. La Dream Team est mobilisée pour analyser ces rencontres menées par Captain Larquet et Jérôme Rotten, bien sûr.
Ouais.
Nos envoyés spéciaux.
Trop d'honneur, Jean-Michel, quand même.
Ah, quand même. Ouais. Ça reste un patron.
Il s'accroche.
Ça reste un patron.
Il s'accroche à la caravane.
Et puis, nos envoyés spéciaux un peu partout en Europe vont nous relater ce qui se passe autour de la compétition et nous commenter les rencontres. Direction Rome, tout de suite, où se trouve Jeannot Rességuier. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Salut Jeannot.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François Marc, effectivement. Ça les a perturbés. Bah, j'ai trois prénoms sur mon passeport. Les trois prénoms apparaissent sur l'accréditation et à chaque compétition internationale, j'y ai droit. Je passe 2 heures pour leur expliquer ce que c'est que ces trois prénoms. Il y a une virgule entre chacun et informatiquement, ils ont des problèmes à sortir l'accréditation. Ils ont fini par la sortie. C'est donc essentiel.
Alors Jeannot, est-ce que tu sens un parfum d'euro?
Non, très honnêtement, par rapport à toutes les compétitions que j'ai vécues, celle-là, elle est particulière. Elle est tout simplement hors norme et inédite parce que il y a bien évidemment le décalage d'un an, il y a la Covid avec ce qui se passe encore un petit peu partout en Europe avec des règles et des passes sanitaires qui ne sont pas les mêmes, des stades qui auront des jauges réduites. Ça va être le cas ce soir avec 16 000 spectateurs, seulement 25% du stade Olympico, 3 stades dont Saint-Pétersbourg, Bakou et Budapest, où l'équipe de France jouera 2 de ces 3 matchs du premier tour, seront quasiment remplis à 100%. Et dans les villes, en tout cas pour ce que j'ai pu constater moi à Rome, dans les villes, on respire pas l'euro comme c'était le cas avant. Oui, il y a des flyers, il y a des logos, il y a des drapeaux, mais il n'y a pas beaucoup de supporters avec le maillot de l'Italie, par exemple. J'ai pas vu beaucoup de supporters avec le maillot de la Turquie. Mais il y a quand même cette fierté ici en Italie d'être... le match d'ouverture, d'avoir toutes les caméras du monde et d'Europe tournées sur le stade Olympico et la fierté justement d'accueillir ce match et cette cérémonie d'ouverture, parce qu'ils ont un peu en travers le fait d'avoir été absent de la Coupe du Monde 2018, et qu'avec Roberto Mancini ça va beaucoup mieux, qu'il reste sur 27 matchs toutes compétitions confondues avec la Ligue des Nations, dont ils accueilleront la finale à 4 en octobre prochain avec la Belgique, l'Espagne et la France. Ils ont retrouvé le sourire, ils ont retrouvé on va dire une certaine fluidité, une stabilité dans le jeu, et qui leur permet d'espérer peut-être d'aller loin. Et puis en plus, ce match d'ouverture, ce sera contre la Turquie. La Turquie, c'est la grosse cote, qui n'a jamais battu l'Italie. Donc voilà, il y a une ambiance particulière autour du stade, ouais. Un petit peu, là sur les dernières heures qui vont précéder cette rencontre et la cérémonie d'ouverture. Mais ça reste et ça restera un euro particulier.
Okay.
Même si peut-être après cette première journée, ça va commencer à déclencher différemment à Amsterdam pour les prochaines rencontres, ou bien à Saint-Pétersbourg pour les prochains matchs.
On va surveiller tout ça. Merci Jeannot, merci à tout Jeannot. À l'heure pour un avant-match complet donc de Turquie-Italie. Oui Jean-Michel, tu voulais dire un truc là ?
Non, que c'est une fausse bonne idée hein, de mettre des matchs à droite et à gauche, de Bakou jusqu'à Wembley. En fait, le club organisateur ou le pays organisateur, me semble-t-il, j'ai regardé un petit peu le calendrier, c'est l'Angleterre.
Oui, oui.
C'est l'Angleterre.
Oui et non.
Les Anglais peuvent quand même jouer 6 matchs à domicile, dont la finale, Jérôme.
Oui, non, c'est vrai. Mais concernant les Anglais, c'est le cas aussi.
C'est une fausse bonne idée parce qu'effectivement, pour 2-3 matchs, eh bien, on ne met pas les petits plats dans les grands, que ce soit à Rome, à Saint-Pétersbourg ou à Bakou. Ce n'est pas véritablement le pays organisateur de l'euro, ou les pays, lorsqu'il y avait Suisse, Autriche ou Belgique, Pays-Bas. Effectivement, s'il y a un petit peu dispersion des énergies et dispersion de l'engouement.
Ouais, où là je te rejoins sur l'engouement. Alors après, est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? C'est vrai qu'ils ont voulu marquer le coup avec les 50 ans de l'euro, mais
fausse bonne idée.
Mais je pense que par rapport au contexte, en tout cas, c'est sûr que l'engouement va être encore différent. Déjà, qu'il aurait été différent, même s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, parce que chaque pays ne peut pas s'approprier l'euro, en tout cas. Et en plus, avec cette crise sanitaire où il y a moins de gens dans les stades et moins de ferveur, ouais. Bah forcément, ça se ressent d'autant plus, comme l'expliquait Jeannot.
Précise que c'est pour les 60 ans de l'euro, pas pour les
60 ans.
Voilà.
Oui, 1960-2020, oui.
Ouais, l'équipe de France.
J'ai raté 10 ans.
On y va, oui, c'est pas grave. Loïc Tanzi nous rejoint. Salut Loïc.
Salut à tous.
Salut Loïc. Qui suit les bleus au quotidien. Quels sont les
boudeurs? C'est le boudeur alors. C'est Loïc.
Il a arrêté de bouder, Loïc, je pense.
Ouais,
un petit peu
hier, aujourd'hui ça va.
Mais tout le monde a arrêté de bouder, même Mbappé a arrêté de bouder.
Ah bah il est devant moi à l'entraînement.
Alors, il boude ou pas?
Actuellement.
Non, devant lui, c'est
beaucoup mieux qu'hier. Beaucoup mieux qu'hier pour Kylian Mbappé, qui est souriant, qui a envie de participer à la petite opposition qu'il y a devant nous. Donc tout va bien pour Kylian Mbappé.
Il y a eu
Mbappé,
la collade avec Giroud ou pas?
Hier, en fin d'entraînement.
C'est surtout Giroud qui lui a fait la collade.
Exactement, t'as vu les images, je pense, Jérôme, pour dire ça, oui.
Alors les infos du jour, qui est présent à l'entraînement, qui ne l'est pas?
Alors il y a 3 joueurs.
Ça vient, attention là, pour le porteur de balle.
De l'entraînement. Raphaël Varane, donc par précaution, qui n'est pas là. Il a beaucoup joué durant la saison avec le Real Madrid. Il a eu quelques pépins physiques aussi. Le défenseur central, donc il reprendra demain l'entraînement. Et sur le terrain annexe, donc juste à côté du terrain Pibaro ici à Clairefontaine, on a Karim Benzema et Antoine Griezmann qui sont en train de s'entraîner tout seul là. Karim Benzema par exemple est en train de faire des gammes de passes avec un préparateur physique. Donc les deux devraient revenir soit demain, soit dimanche, probablement demain pour Karim Benzema, peut-être dimanche pour Antoine Griezmann, qui vient de finir sa séance individuelle et qui est en train de rejoindre ses coéquipiers, va regarder la petite opposition qui a lieu en ce moment sur le terrain de Pibaro à Clairefontaine.
Ouais, aucun problème là.
C'est bon signe. De toute façon, on a vite été rassuré dans tous les cas. Après, on peut pas être dans la cuisse de Karim, mais quand tu vois l'impact qu'il y a eu, cette béquille qui est une grosse béquille qui s'est transformée en contusion, forcément derrière il y a des soins à mettre en place, mais c'est pas, il y avait rien d'inquiétant en tout cas. Moi j'étais persuadé qu'en 2-3 jours il allait récupérer, c'est le cas, donc c'est très bien. L'équipe de France sera dans ses meilleures dispositions pour jouer en Allemagne, et c'est là-dessus que c'est bon signe.
Et en plus, il n'y a plus de problème donc entre Mbappé et Giroud.
Ouais, du moins, le problème, il a existé. Là,
mais ouais.
Après, Giroud, il a été bien réglé. En gros, et on l'oublie pendant la durée de la compétition.
Voilà, oui, voilà. Après, c'est pas les meilleurs amis du monde, mais ça, on s'en fout. Il faut avancer, il faut pas rester sur des on-dit. Je pense qu'il y a eu une explication. On en a parlé hier, hein, déjà, nous, dans l'after, mais, et vous aussi, certainement. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent dans un groupe.
Mais il faut que ce soit géré quand même. Il faut pas que ce soit mis sous le tapis.
Il faut que ce soit géré. Après, il y a le nouveau statut de Kylian Mbappé à gérer aussi, et l'attitude qu'il a et qu'il a eu par moment, et on l'a mis en avant avec le Paris Saint-Germain. Voilà, il doit aussi se rendre compte que il y a des choses à pas faire quand t'es un joueur leader.
Merci Loïc Tanzi. Dans un instant, Marcel Desailly, invité de Roten Régal, le champion du monde 98 et 2000, va nous aider à lancer l'Euro sur RMC. C'est ce soir 21h, le premier match Turquie-Italie. À tout de suite.
RMC
18h-20h
Roten Régal spécial UEFA Euro 2020.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h30, toujours dans Roten Régal, bien sûr, sur RMC avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. Jean-Louis, avant d'accueillir Marcel Desailly, il y a quelqu'un qui va nous présenter son journal moyen.
Adrien Aiguin, ah, salut Adrien.
Salut.
Le dernier de l'année.
Ce qui est bien, c'est que tous les bons clients, là, toutes les stars de la Dream Team sont déjà en mode euro. Ça s'est entendu pendant France-Bulgarie. Et puis même sur M6, Robert Pires, c'était déjà en mode euro.
Ouais. Très bien, Adrien. Tout à l'heure, 18h45, balle de match. Tsitsipas face à Zverev, Florence Serra, Anthony Reich.
Et c'est la quatrième balle de match du Grec et Alexander Zverev vient de la sauver remarquablement avec un service, une première balle bien appuyée. Il est sur le fil du rasoir, Alexander Zverev, Florence.
Ouais, heureusement que la première vient au bon moment, on va dire, parce que du fond du court, c'est de plus en plus dur. Il commet quelques fautes, mais pour l'instant, le service lui permet d'espérer. Peut-être pour faire servir Tsitsipas. J'aimerais voir aussi le Grec. Ça serait sa première finale en Grand Chelem. Il peut aussi se crisper. On est à 40 à
5-2 dans ce cinquième set et l'échange est engagé. Si vous voulez vivre ce point qui va peut-être offrir une cinquième balle de match et peut-être du coup une finale, une première finale de Grand Chelem pour Stefanos Tsitsipas. Et coup droit dans le filet. Alexander Zverev est toujours en vie. Il va peut-être revenir à 5-3 dans ce cinquième set.
Alors très bien, très bien. On va quand même suivre donc la balle de jeu et après on accueillera Marcel Desailly.
Parfait. Alors Alexander Zverev là qui va prendre ses balles, il prend son temps, on le sent. Un peu de fatigue, Florent, parce qu'on est à 3h30 de combat avec une grosse chaleur aujourd'hui à Roland-Garros. On a frôlé les 30 degrés et il fait très chaud sur le court Philippe Châtrier. Les deux hommes ont vraiment pris le soleil. Et là, on va voir ce que va faire Alexander Zverev sur cette première balle de service. Avantage pour l'Allemand. Le premier service est dans le fil. Il va y avoir une deuxième balle à jouer pour essayer de rester en vie dans cette demi-finale. On le rappelle, Stefanos Tsitsipas mène 5-2 dans la cinquième manche décisive. Il est tout proche, le Grec, de se hisser pour la première fois de sa carrière en finale d'un grand chelem. Et il reste sur deux demi-finales en grand chelem. Et là, c'est vraiment l'ultime chance de survie d'Alexander Zverev, Florent.
Heureusement que il est là, parce que je peux vous dire que Zverev, je parlais de son service, parce que sinon, il serait déjà au vestiaire sur ces deux balles de match. Seconde balle, elle est bonne.
C'est parti, l'échange s'installe. Bon retour de Stefanos Tsitsipas en revers. Et Alexander Zverev qui peut-être est de plus en plus nerveux. Il part à la faute en coup droit. Égalité, on va peut-être avoir encore une balle de match côté Stefanos Tsitsipas.
Jérôme, qui va gagner?
Bon, là, je pense que Tsitsipas, le Grec, il est bien parti quand même. Mais quel match quand même entre ces deux joueurs là,
c'est combat, fabuleux. Ouais, Jérôme, énorme combat. Et puis c'est fou comment ça s'est inversé. On a d'abord eu deux sets impeccables de Stefanos Tsitsipas qui a pris les deux premières manches 6-3-6-3. Puis derrière, Alexander Zverev au forceps, au combat dans le jeu du fond du court a bien renversé la tendance, Florent.
Ça fait quand même 3h32 qui sert à 210 de moyenne Zverev avec des petites pointes au-delà de 220. Donc il en voit bien. Le problème, c'est qu'il démarre timidement et il se fait tout de suite prendre à la gorge. Et le problème, c'est qu'il réagit. Mais troisième, quatrième set, il a fait beaucoup d'efforts. Et là, il accuse un peu le coup dans cette cinquième manche physiquement, parce que Tsitsipas le fait beaucoup courir. Il trouve un tout petit peu plus d'angle et il fait un peu moins d'erreurs. Il rate un petit peu plus dans ce set.
Allez, c'est parti pour ce point égalité. Bon service extérieur d'Alexander Zverev. Nouvel avantage pour l'Allemand. Toujours en vie. Donc, c'est dommage parce que là, Tsitsipas avait peut-être une occasion de de
c'est
reprendre.
C'est bien servi quand même.
Ouais, c'est bien servi. Bah, y a rien à dire. Hein, c'est un service extérieur impeccable. Il en a fait beaucoup pendant cette rencontre d'ailleurs, Alexander Zverev sur ce côté-là. Avantage donc pour l'Allemand qui va peut-être recoller à 5-3 dans cette cinquième manche décisive sur le central dans cette demi-finale. Il va avoir une première balle à jouer, Florent.
Ouais, première. S'il choisit le T cette fois-ci. Et ça passe, toi encore service, service gagnant. Gagnant donc
service gagnant, il est toujours en vie. Il est toujours en vie, Alexander Zverev. 5-3 de Tsitsipas dans cette cinquième manche.
Très bien, merci, merci messieurs. Évidemment, on ne rate rien de cette rencontre, comme on ne ratera rien non plus de Djoko Nadal.
Bien sûr.
Ce soir, tous les matchs sur RMC.
On sera
évidemment.
Plus là, vu l'heure du match.
Ah, nous, on ne sera plus là. Non. Effectivement. Alors, événement, donc, puisqu'on est avec notre invité Marcel Desailly, que tu as connu pendant l'Euro 2004. Jérôme.
Exactement.
Vous avez cette compétition en commun.
2003
donc.
Aussi, la Coupe des Confédérations.
Ah oui, aussi, c'est vrai. Mais comme on lance l'Euro, là, je restais sur l'Euro 2004,
mieux,
hein, bien
mieux.
Sûr.
C'est
Marcel Desailly, champion du monde 98 et champion d'Europe 2000 et dans Rotten Régal.
Salut Marcel.
Salut les gars, j'espère que vous avez la pêche.
Ah, on a la pêche, comme toi. Toi, t'as toujours la pêche. Et puis moi, ça me fait plaisir de recevoir une légende, hein, parce que tu fais partie des légendes du football français, ça c'est sûr.
Non, mais... Je suis un gros poisson.
Oui, maintenant, t'es un gros poisson.
Ouais. Poisson, ouais. Voilà.
Bon, déjà, outre le fait que comment tu vas, ça a l'air d'aller. Comment tu prévois, comment tu vois l'euro de l'équipe de France?
Bah, ça a l'air d'aller, ça va bien dans la mesure où on a une qualité de collectif incroyable au sein de l'équipe de France. On retrouve du public, il y a du football, on y croit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe de France avec un vrai statut, un statut de champion du monde, un statut individuel et collectif qui fait qu'elle peut aller au bout, et on le sait d'entrée de jeu. Donc un peu à l'image de nous en 2000, où on sent qu'ils peuvent nous la refaire, cette folie de victoire.
Ouais, tu sens qu'il y a un rapprochement. C'est vrai que le parallèle est intéressant et nous on se pose la question parce que moi je l'ai pas vécu avec vous, mais après 98, ces titres de champion du monde, tu penses qu'il y a en effet le parallèle avec l'équipe de France d'aujourd'hui, quoi.
Alors ils sont un petit peu plus en paix aujourd'hui, je crois, puisque nous on était restés sur le sentiment que 98 on n'était pas les meilleurs et 99, 2000, 2001 jusqu'à 2002 où on a chuté. On avait à cœur de prouver qu'on était vraiment la meilleure équipe sur le marché. Alors que cette nouvelle génération, elle n'a pas vraiment à prouver quoi que ce soit. Ils ont une forme d'insouciance que nous, on n'avait pas, malheureusement.
Mmh. Ouais.
Mais il y a du talent dans cette nouvelle équipe qui fait qu'ils ont plus à cœur de se retrouver à travers la culture de la gagne qu'ils ont développée pour aller au bout. Si tu regardes bien, quasiment tous les joueurs de l'équipe de France aujourd'hui, les jeunes, la nouvelle génération 2018, ont connu des difficultés en club. Et le fait de se retrouver aujourd'hui va donner, pour cette nouvelle compétition, une énergie collective incroyable.
D'accord. Quand tu parles de parallèle, du moins, je te trouve un peu dur déjà avec 98, mais c'était un peu pareil en 2018 en fait. Sur la victoire de la Coupe du Monde, j'ai pas l'impression que les Français se sentaient supérieurs aux autres. Alors ils ont été champions du monde comme vous en 98, et là on est là pour applaudir et dire bravo. Mais derrière, moi je trouve que on le voit à travers le discours de Didier Deschamps, même les dernières performances, la soif de vaincre. Moi je trouve en effet qu'ils sont dans le même état d'esprit que vous. Comment vous abordez l'Euro 2000? Du moins, là, peut-être que c'est le moment pour eux de dire, oui, là, on est les plus forts.
Oui, je confirme. S'ils sont comme ça, dans cet état d'esprit, c'est magnifique. On a pu battre le Danemark, la République tchèque, les Espagnols, les Portugais et les Italiens.
Mmh.
Et malheureusement, on a perdu contre les Hollandais, mais ça nous a arrangé un petit peu pour rester dans en Belgique. Mais... oui, là, ils auront à cœur dans ce groupe déjà, Allemagne, Portugal et Hongrie, de prouver que oui, effectivement, ils sont l'équipe à battre et qu'ils vont raser avec le titre, avec le prestige d'être champion du monde. Ils vont à nouveau prouver qu'ils sont les plus forts. C'est la meilleure génération. Ils sont dans le cycle positif.
Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas se méfier? Marcel Desailly est notre invité. On le retrouve dans une seconde. Mais le tennis, c'est fini. Première demi-finale à Roland-Garros. Et donc, Tsitsipas en finale. Florent Serra, Anthony Reich.
Oui, ça vient tout juste de se terminer sur un ace pour Stefanos Tsitsipas qui s'impose dans cette demi-finale face à Alexander Zverev après 3h37 de combat et 5 manches, 6-3 dans la dernière et ultime manche de cette demi-finale pour la toute première fois de sa jeune carrière. À 22 ans, le Grec se hisse donc en finale d'un grand chelem. Il défiera le vainqueur du grand défi, du grand duel ce soir entre Rafael Nadal et Novak Djokovic.
Il peut inquiéter, à votre avis, messieurs, Nadal, en finale? Bon, c'est pas Nadal encore qui est qualifié, hein. Il y a Djokovic,
ouais.
Mais...
Ouais, t'as juste Djokovic en face aujourd'hui. Bon, et si vous partez sur la finale de l'année dernière, on va dire, on attendait tous que Djoko peut être vainqueur pour une fois, mais Rafa...
Je disais que Djoko est moins impressionnant quand même que Rafa sur ce tournoi.
Un petit peu, mais par contre, il a fait deux premiers sets monumental contre Berrettini, ouais. Et après par contre il a vraiment eu une petite baisse de régime, ouais. Et c'était plus du tout le même joueur sur le troisième et quatrième set. D'ailleurs vous l'avez vu comme il a exulté, je pense qu'il était super tendu. Mais s'il joue de la même manière dans les deux premières manches, il peut gêner Rafael.
D'accord, et ben rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième demi-finale. On a retrouvé Marcel Desailly. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas se méfier de ce cycle positif, peut-être trop positif? Est-ce qu'il y a un risque d'excès de confiance? En plus, avec le retour de Benzema, tout le monde dit qu'on a la meilleure équipe du monde. Même les joueurs ont dit qu'on avait la meilleure attaque du monde. Est-ce que ce risque d'excès de confiance existe?
Non, pas vraiment. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forme d'insouciance et il y a une vraie envie de rester sur la culture de la gagne. Ils sont jeunes, ils sont forts, ils sont talentueux. Il n'y aura pas ça. Ils ont un côté... professionnels qui, à l'apparence, comme ça, on n'a pas l'impression. Mais c'est des killers. On a vraiment une équipe de killers, jeunes, mais qui a envie de continuer l'aventure. L'arrivée de Benzema, c'est bien, ça équilibre un petit peu, parce que Didier a tout de suite identifié que Giroud est toujours là. Qui dit que Benzema, il va jouer? Voilà, c'est Giroud avant tout, qui n'a pas trop de temps de jeu. Donc, avoir ramené Benzema, ça insuffle. Forcément, on le voit en club. Chaque année, il faut ramener un nouveau joueur pour permettre de continuer à gagner les différents championnats ou objectifs. Et là, en l'occurrence, avec Benzema, ça a insufflé un petit quelque chose, sans qu'il ait la garantie de jouer.
Pour vous, il n'est pas titulaire indiscutable. Pour vous, Benzema, il n'est pas titulaire indiscutable. Ça reste Giroud.
Il était arrivé à un point où il était impossible de le laisser de côté. Maintenant, il est dans le cadre France, groupe France. Non, il n'est pas titulaire indiscutable. Qui dit, après on parle de complémentarité, qui dit que la complémentarité Giroud, et il l'a prouvé, elle n'est pas mieux que celle de Benzema avec Griezmann et Mbappé.
Oui, mais
ça,
on
c'est au sélectionneur de décider.
Oui, t'as raison là-dessus, Marcel, mais dernièrement, on a quand même vu l'altercation entre Giroud et Mbappé. Du moins, on a vu l'entrée de Giroud. Mbappé qui n'a pas forcément joué pour Giroud et qui se plaignait, Olivier, de ce manque de ballon. Tu ne penses pas que ça peut créer quelques tensions et surtout aller dans le sens du sélectionneur?
Monsieur Roten, meilleur passeur. Côté gauche, je te vois débouler sur ce côté gauche.
Ah, j'allais vite. Hein.
Les ballons, t'allais très très vite. Il y a eu quelques années où t'étais insaisissable. Ouais. Ouais. D'autres années, on arrivait à t'accrocher.
Oui, c'est vrai.
Il n'en reste pas moins vrai, messieurs, tu le sais mieux que moi, que ça reste dans l'intensité du jeu. C'est rien. C'est rien ce qui s'est passé. C'est rien quelque part. Je parlais tout à l'heure de la culture de la gagne. Mmh. Ils vont passer au-dessus de ça pour aller chercher cette énergie et ils vont accepter ce que Didier va mettre en place.
Oui, mais tu me parlais de complicité, Marcel. C'est là-dessus, de complémentarité où plus ou moins, toi, tu penches sur Giroud par rapport au fait qu'ils se connaissent et ils ont gagné déjà la Coupe du Monde avec Olivier Giroud et que là, avec Benzema, c'est autre chose. Mais t'as pas l'impression quand même que le jeu, par exemple, de Griezmann et de Mbappé correspond totalement à ce que Karim Benzema peut amener?
Non, mais la qualité première de Benzema, justement, c'est de pouvoir s'adapter aux coéquipiers qu'il a. Et d'être une vraie valeur ajoutée. Il l'a montré tout au long de cette saison, de ces deux dernières saisons, où on a perdu, il a perdu Ronaldo, et tout de suite il s'est adapté au schéma avec Vinicius sur le côté, avec Isco qui a tourné autour de lui. Il a su s'adapter. Mais maintenant, je vous dis encore, Didier a le choix de voir et de décider quelle sera la meilleure complémentarité pour son groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'histoire. Benzema, c'est fantastique de l'avoir retrouvé. Maintenant, laissez Didier choisir sa meilleure option avec sa sensibilité avec lui. Tu sais bien, Monsieur Roten, tu sais bien, à l'entraînement, là, c'est le coach qui décide. Il voit un peu l'énergie, les mouvements, les paroles, les... Voilà. Donc,
puis toi, tu lis très bien Didier Deschamps en plus, parce que bon là, tu nous livres des conversations privées que tu as eues avec lui, donc ça c'est intéressant.
Oui, je peux dire oui, dans la mesure où je laisse la porte ouverte aux sélectionneurs de décider. Elle est là cette valeur ajoutée.
Bien sûr,
Marcel. Didier. Il nous a fait une Coupe du Monde en 4-2-3-1. Là, il va peut-être nous faire un 4-3-3. On ne sait pas.
Marcel Desailly dans Roten Régal. Alors, la compétition que vous avez en commun. C'est donc l'Euro 2004.
Oh là, j'étais au summum et Marcel, il était.
Pas, alors, au summum.
Il était.
Bah, ah bah bon. Moi, ça retombait. Moi, je dois avoir 35 ans, quelque chose comme ça.
Ouais, ouais. Non, moi, j'ai l'impression que tu avais été très bon sur cette compète.
Alors, je m'étais blessé un petit peu avant la compétition.
C'est vrai.
Et c'était le deal avec notre entraîneur.
Jacques. Il s'appelait Jacques Santini.
Notre sélectionneur et ami Santini. Et donc, j'ai pas pu après. Revenir dans le rythme de jeu, mais c'est un plaisir d'être à vos côtés en tant que capitaine et vous.
Et Jérôme, il était comment dans le groupe à l'époque ?
Non, il appréhendait les matchs comme il le fallait. Il est talentueux, donc c'est facile, c'est la créativité. Il avait faim, il avait envie de montrer son talent et il nous l'a montré. Malheureusement, les Grecs nous ont coupé l'herbe sous le pied, quart de finale, et voilà, et ça n'a pas marché. Donc. Il a vécu un euro intense, notre ami Roten.
Et vous avez connu son prénom très vite ?
Qui ?
Est-ce que Marcel, il a connu ton prénom vite ?
Mon prénom ?
Parce que parfois, avec les remplaçants, Marcel...
Non, c'était pas Marcel. Marcel, non. C'est vrai que là...
J'ai pas d'autres champions du monde 98 m'ont raconté ça.
Non, déjà, Marcel, c'est très sympa ce que tu dis sur moi, mais moi, à l'inverse, moi, c'est vrai que j'ai... Quand t'es un jeune footballeur et que tu vois... moi, je vous ai idolâtré avec 98 et 2000. Franchement, c'était une fierté énorme d'avoir des joueurs comme ça, un capitaine comme toi. Franchement, j'ai rarement eu j'ai pas forcément eu la possibilité de te le dire, mais là j'ai envie de te le dire que t'étais exemplaire et t'étais un vrai exemple pour nous les jeunes.
Je t'aime mon ami, je t'aime. Voilà. Et pour répondre à la question au sujet de, c'est vrai que pendant la carrière j'étais assez focalisé sur mon adversaire que j'étudiais, savoir s'il faisait ses déplacements à droite, à gauche. Et je me souciais pas trop du reste de l'équipe et de l'animation qu'allait se défensive ou pas qu'allait se réaliser. Je restais concentré sur mon sujet. Ouais. Et ça m'a beaucoup servi parce que ça n'a pas dilué un peu mon attention. Et j'ai pu faire une carrière honnête.
Marcel, pour en revenir un peu à plus globalement l'Euro, outre les Français, parce que j'ai compris que tu les voyais comme moi à un très bon niveau et favori de cet Euro, est-ce que tu vois une autre équipe capable de décrocher ce titre-là ?
Bah oui, il y en a au moins quatre. Les Portugais, individuellement, ils ont rehaussé un petit peu leur niveau, si Cristiano reste à son niveau habituel. João Félix, etc. Il y a du beau monde. Hein. Maintenant, je pense que les Anglais sont un peu encore trop tendres. Il y a des individualités, mais il n'y a pas une équipe. Il n'y a pas d'équipe encore.
Même avec le calendrier, en ayant la chance de recevoir quasiment tout le temps ?
Oui, non, je ne pense pas. C'est une histoire de cycle. Mmh. On a plus le sentiment qu'aujourd'hui, en plus, ils sont premiers au ranking FIFA. On a le sentiment que les Belges ont peut-être une carte à jouer. Ils n'ont pas eu de chance lors de la Coupe du Monde. Ils sont passés devant le rouleau compresseur français.
Ouais, ouais.
Ils se sont fait piéger à leur propre jeu de contre-attaque à l'époque. Mais la Belgique, pourquoi pas la Belgique. Les Hollandais aussi, pareil que les Anglais, c'est encore un peu tendre, j'ai le sentiment.
Marcel, avant de vous libérer, merci de nous avoir répondu.
Ouais, merci.
Quand même ambassadeur UEFA, hein, c'est pas rien quand même.
C'est pas rien, on reçoit pas n'importe qui. Quoi.
Bien sûr. Ah ouais. Alors c'est un euro particulier puisque c'est un peu partout en Europe. C'est l'occasion aussi, alors ça va être difficile pour les gens de voyager librement, etc., même s'il y aura du monde dans les stades, mais c'est l'occasion de parler de voyages aussi, des voyages par rapport au foot. J'imagine que vous, quand vous étiez joueur, vous avez énormément voyagé. Bon, c'est pas dans les mêmes conditions que les touristes normaux, hein, on peut pas trop aller voir les villes, mais quand même, le foot vous a permis de découvrir tout un tas de villes.
Mais oui, bien sûr, faut pas hésiter, vous me tendez la perche et c'est bien de pouvoir parler des voyages et des réservations. Vous me parlez de Booking.com, un des sponsors de l'UEFA, et c'est vrai que c'est une énergie qu'il faut retrouver pour emmener cette folie que le football a besoin à nouveau, et que même s'il y a des difficultés pour voyager, il faut arriver à faire l'effort pour à nouveau remettre de la joie dans les stades. Parce que ça nous a manqué hein, quand même, les gars. Ah oui. Les stades, avec le bruit, on était fatigués d'entendre le son des voix des joueurs
du ballon,
sur le terrain.
C'était du ballon, peu, c'est horrible.
Du ballon ou le petit coup sur le tibia et on entendait le joueur crier. Comme
oh là là, heureusement que tu n'as jamais joué à huis clos, parce que sinon on t'aurait entendu en dehors du stade.
Ah, ça aurait été terrible pour moi de jouer à huis clos, puisque j'ai cherché mon énergie, mon intensité. Je n'étais pas un créatif, mais j'allais chercher ma gagne à travers l'adrénaline que le public m'emmenait, quoi.
Et ouais.
Donc, ça aurait été affreux. Donc, oui, on espère que les gens vont se déplacer, vont faire l'effort et qu'on va retrouver le foot au niveau. C'est d'utilité publique, le football, messieurs. Et bien on sûr. En a besoin.
Bien sûr.
Bravo. Bravo, Marcel, voilà. Pour cette page sponsor. Bravo.
Merci Marcel de Sailly.
Merci en tout cas Marcel et puis bon euro.
I love you guys, enjoy.
Allez, salut Marcel, bye.
Marcel de Sailly, le champion du monde 98 et champion d'Europe 2000.
Complètement taré.
Complètement taré. Dans une seconde, le journal moyen.
Non, on l'embrasse.
C'est 18h-20h.
Rotten Régal spécial UEFA Euro 2020.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h55, toujours dans Rotten Régal. Allez, c'est l'heure du journal moyen avec Adrien Higouin.
Alors cette semaine, j'ai écouté l'excellente émission Top of the Foot. Oui, capitaine Marqué a mis ce que j'appelle dans le jargon du journal moyen un énorme vent radiophonique à Mohamed Bouafsi.
Non.
Je crois que capitaine ne s'est rendu compte de rien. Jean-Louis Tour n'a rien remarqué. Vous êtes en train de parler des performances des anciens lors du match du Variété dimanche à Colombey et les Deux Églises. Et Mohamed tente une petite intervention. Oui, et là, Mohamed est très seul.
Nous avons eu un Laurent Blanc étincelant.
Oui.
Michel Platini.
Non, Michel était blessé.
Non, il paraît qu'il a été étincelant au buffet.
Et puis Christian Carambeu dirigeant la manœuvre.
Mohamed, seul au monde, ça arrive, capitaine, à laisser tomber.
C'est pas beau. Franchement, pas beau.
Je sais pas si c'est volontaire, capitaine, je sais pas. Sans transition, c'est l'euro.
Il t'en met un à toi aussi, là.
Heureusement, il y a Kylian Mbappé.
Alors, sur RMC, on est les meilleurs pour le foot. On va se régaler pendant l'Euro. On s'est déjà régalé pendant France-Portugal mardi. C'est la fin de la Marseillaise. Un joueur bulgare s'appelle Touristov.
Et Gilbert me régale. Et voilà pour la Marseillaise. Dans quelques instants, on est de retour. Alors attention au latéral bulgare Igor Touristov. Mmh. On l'a vu prendre des photos.
Il est tout petit.
Touristov qui prend des photos.
Je vais demander à pire.
Bah, attends, parce que 12 minutes plus tard, Gilbert.
Il a refait. Oui, j'aime bien insister. Bon, et moi je suis le match de Touristov. Hein. On va juste voir s'il est venu là que pour les visites. Voilà. Ou s'il va faire un match.
C'est la deuxième fois que tu l'as fait, tu voulais la placer.
Voilà. Voilà. Les visites, j'ai
pas envie. Les photos tout à l'heure.
Exactement.
Et puis, du coup.
On n'a pas eu droit au mal au ventre.
Oui, je pensais que c'était ça, que ça tomberait là-dessus.
Je pensais qu'il était.
Du coup, c'est Kevin Diaz qui commente le match avec eux et il veut entrer en jeu avec Gilbert.
Becky pour Benzema.
Et a reçu un petit coup.
J'espère qu'avec ce but de Touristov, ils vont pas prendre une valise quand même.
Avec Griezmann, le corner, il est allé chercher la valise, tête de Kimpembe.
Je vous dis qu'on va se régaler pendant cette Euro.
Ah, là, on va se régaler.
Moi, ce qui m'a régalé, c'est Roland. Je vois que la fixette a commencé dès le match sur la béquille de Benzema.
Béquille. Attention à la béquille.
J'écoutais
du haut niveau.
Après, je suis allé sur M6. C'est Robert Pires qui a commenté le match.
Du haut niveau aussi.
Avec Xavier Domer.
Très très haut niveau.
Alors vous allez m'aider capitaine et Jérôme, parce que sur l'intégration de Benzema dans l'équipe, il y a une histoire de pied. C'est pas dans le bon ordre, je pense.
Cette formation qui est la nôtre, et puis surtout avec les joueurs qui est autour de lui, donc il est dans le cœur du jeu. Je trouve qu'il ne se marche pas trop les pieds avec Antoine Griezmann, donc c'est vraiment intéressant.
Il ne se marche pas trop les pieds. Tu te marches toi les pieds, d'accord.
Il est hyper sympa, Robert.
Dans le match, il y a eu quand même pire. Hein. Dans le match.
Sur quoi? Sur l'analyse tactique.
Sur quelle analyse? Notamment.
Bon, arrêtez, on critique pas les confrères. En plus, ils sont très sympas. Donc maintenant, ça suffit. Voilà.
Il marquerait plus qu'il
mord. Non, mais c'est vrai. Et Jean-Michel, on peut confondre un 4-4-2 en losange et un 4-3-3 avec trois attaquants sur la largeur. Ça peut arriver. Hein.
Jean-Louis, vous dites d'arrêter. Il est mort de rire. Mais Jean-Louis,
non, mais qu'est-ce que tu veux. Après, c'est l'émission de Jérôme. S'il veut se passer avec tout le monde, il peut rien, moi.
J'étais en recyclage quand ils ont fait l'analyse tactique. D'accord. J'étais en recyclage. Oui, là, c'était magnifique.
Merci, dit, Adrien.
Faut que je reparte à Clairefontaine pour.
Mais ce qui est bien, c'est de faire l'analyse au bout d'une heure de jeu. Ça, c'est bien.
dans un instant. Analyse du séisme autour des droits télé. Canal se retire. Quelle réaction pour la Ligue? On en débat dans un instant et on vous rappelle toutes les infos et puis on lance l'Euro. Qui est le principal concurrent des Bleus? On fera un tour d'Europe dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten Régal, spécial UEFA Euro 2020.